Les temps modernes.
Bonjour Coralie Claude.
Bonjour Simon.
Ce matin, on va parler d'un pipeline et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un pipeline pour voyageurs.
Et oui, imaginez un tube long de plusieurs milliers de kilomètres, un tube dans lequel on le ferait circuler à 10 000 km/h des navettes pressurisées. Dans ces navettes, des gens, comme vous et moi, des voyageurs qui pourraient relier Paris à New York en une petite demi-heure.
C'est complètement fou.
Non, c'est sérieux. Hein. C'est le projet qu'un consortium américain rêve de réaliser d'ici 35 ans en tissant un réseau de tubes d'1,50 m de diamètre. Un réseau qui relierait les continents et permettrait de couvrir 90% des déplacements internationaux. Et vous savez quoi ?
Non.
Eh bien, techniquement, rien ne s'y opposerait. Eh ouais. Jérôme Lesueur, physicien, spécialiste des matériaux supraconducteurs et enseignant à l'École supérieure de physique et de chimie de Paris.
Si on prend les éléments purement techniques, c'est-à-dire est-ce qu'on sait faire le vide dans des très très longues canalisations, puisqu'il faut que ces trains voyagent dans le vide, c'est possible. Par exemple, au CERN, on a, je crois, 27 km de canalisation sous vide. Si on regarde l'aspect des moteurs et de la sustentation magnétique qui est nécessaire, c'est aussi possible, en particulier avec des supraconducteurs, des matériaux qui permettent effectivement de faire léviter un train. Il y a déjà d'ailleurs un train japonais qui existe sur ce principe et qui va à 600 km/h. Donc tous ces éléments sont plausibles et les connaissances aujourd'hui ne permettent pas de dire que c'est impossible.
Alors qu'est-ce qui empêche la construction d'un tel système de transport ?
Eh bien le coût et la sécurité, hein, mais rien ne nous empêche de rêver Paris-Tokyo en une heure. Ça a de quoi bouleverser notre conception des déplacements. Bonjour Daniel Mange.
Bonjour.
Vous êtes professeur honoraire à l'EPFL, secrétaire général de la CITRAP, la communauté d'intérêt pour les transports publics, co-auteur de Plan Rail 2050, un plaidoyer pour la vitesse, le pipeline pour voyageurs, ça vous fait rêver ?
Bien sûr.
Vous embarquez illico presto ?
C'est un rêve à la Jules Verne. Alors les chercheurs actuels semblent de doux rêveurs quand on voit leur maquette qui ne fait que préciser le diamètre de 1,50 m au sein duquel deux personnes seraient assises. Mais par ailleurs, tous les autres éléments tiennent la route, comme ça a été dit dans le début du sujet. Mmh. En fait, la sustentation magnétique et le vide d'air pour avancer sans avoir la pression de l'air, c'est les bases du fameux projet Suisse Métro qui était développé en Suisse pour des trains qui roulaient évidemment à ce moment-là à 400 km à l'heure. Suisse Métro, pour moi, est le système américain étroit du pipeline. C'est pour moi une étape numéro 2. Il faut le voir comme une concurrence, cette fois à l'avion. L'avion a ses problèmes. On sait que le prix du kérosène augmente, le pétrole va devenir rare, les émissions de CO2 sont de plus en plus insupportables, le bruit des avions dans les aéroports pose des limites extrêmement sérieuses à l'horaire des transports aériens. Un tel système propre, qui cadre complètement dans le développement durable, peut être un substitut à l'avion, il faut le voir dans cette perspective.
Donc le pipeline pourrait remplacer l'avion ?
C'est exactement ça.
Et quand même, Daniel Mange, pouvoir relier Paris à New York en une demi-heure, c'est moins que le temps qu'il nous faut aujourd'hui pour faire Lausanne-Genève. Hein. Je pourrais très bien habiter Paris, travailler à New York. Il y a des enjeux géopolitiques là derrière.
Alors c'est déjà le problème du pendularisme actuel où justement on fait ce procès à la grande vitesse de rendre possible le fait de travailler assez loin de son domicile. Comme vous le savez, même nous qui luttons pour introduire en Suisse des trains dits à grande vitesse, c'est-à-dire qui roule au standard européen de 320 km à l'heure, on se heurte à une armée de sceptiques qui ne veulent pas de la vitesse et qui, au contraire, veulent contrarier la mobilité et même détruire cette mobilité. Donc l'affaire n'est pas gagnée. Il y a actuellement une espèce de débat philosophique sur la nécessité de se déplacer
et d'aller
plus vite.
Sur ce débat philosophique, justement, je souhaiterais vous faire réagir au propos de Jean-Louis Servan-Schreiber, essayiste, homme de presse, et on l'a reçu il y a quelques semaines sur notre antenne. Et voilà ce qu'il disait à propos de la vitesse.
En ce qui concerne la vitesse, on vient de passer 2 siècles à essayer de la conquérir et de la pousser le plus loin possible. Alors il faut constater que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté le jour du crash du Concorde, je crois que c'était en avril 2000, c'est-à-dire avec le début du 21e siècle. Là, on a vu que la vitesse absolue nous mettait en échec et qu'on pouvait se contenter des vitesses moyennes avec lesquelles nous nous déplaçons maintenant.
Daniel Mange, Jean-Louis Servan-Schreiber nous dit que nous n'avons pas besoin d'aller plus vite, il se trompe.
Il ne se trompe pas, mais il n'a peut-être pas forcément raison. Concorde, c'est la fin de l'avion, mais ce n'est pas la fin d'autres moyens de transport, sans faire allusion à la téléportation qui ferait qu'on pourrait peut-être, par photon interposé ou par reconstruction moléculaire, se reconstruire à distance, donc avoir un déplacement instantané sans matière.
Oui, parce que ce projet de pipeline pour voyageurs tutoie la télétransportation, on y est presque.
On y est presque. C'est ce don d'ubiquité, on pourrait être presque partout au même moment, on irait plus vite que le soleil, entre autres. Donc il y a toute une série, évidemment, de conséquences à cela, sociologiques, politiques, qui sont à examiner. Mais il est extrêmement difficile de nier qu'une innovation annoncée aujourd'hui ne pourra se réaliser demain.
Merci beaucoup, Daniel Mange, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous.